Mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.
Irène Finkel, bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi va la vie. Aujourd'hui, je reçois Antoine Maurice. Bonjour Antoine.
Bonjour Irène.
Antoine, vous êtes né le 2 juin 1981 à Toulouse. Vous avez grandi à l'Île-Jourdain dans le Gers, où vos parents ont une maison construite sur la terre de vos grands-parents maternels agriculteurs. Vous avez une sœur qui a 5 ans de plus que vous, Géraldine. Vous effectuez votre scolarité dans le Gers jusqu'au baccalauréat. Puis, vous venez à Toulouse pour faire votre fac de droit. Vous y avez une maîtrise en droit social en 2003, puis un DESS en gestion du personnel en 2004.
Tout à fait.
Tout à fait. Une enfance à la campagne, donc.
Oui.
Pour un petit garçon, comment ?
J'étais un enfant timide et réservé. Qui a vécu effectivement à la campagne. Donc la campagne, en plus, c'est propice à une certaine solitude aussi dans les champs, etc. En même temps, j'ai développé une très forte amitié dès la maternelle, mais avec un copain qui était non-voyant. Et ça a contribué aussi à cette timidité, ce côté réservé, parce que j'ai lié une amitié très fusionnelle, mais qu'avec lui. Et du coup, beaucoup moins avec les autres camarades de classe, qui d'ailleurs, pour certains, ne comprenant pas le handicap, étaient plutôt malveillants, on va dire. Donc on va dire que dès la maternelle, j'étais déjà dans un combat pour l'égalité, contre les discriminations. Et sans doute, ça a contribué à forger aussi ce que je suis devenu.
Ça vous isolait en plus.
Mais ça m'isolait aussi. Et en plus, on avait beaucoup d'atomes crochus, notamment le goût de la musique. Donc on passait, je me souviens, des après-midi entières à écouter la musique. Moi, je me suis beaucoup construit autour de ça, finalement. En même temps, la musique, ça nous fait nous évader, ça nous apprend des choses aussi. Mais c'est vrai que j'ai été aussi un garçon assez isolé et qui a vécu des difficultés ensuite dans d'autres phases de ma scolarité, notamment au collège, quand il y a eu la séparation avec cet ami, Buddy, avec qui j'avais créé vraiment cette amitié fusionnelle qui, du coup, elle m'a bloqué, arrivé au collège, donc j'ai eu un peu une entrée au collège assez douloureuse, un peu de mal-être clairement, sans doute d'autres choses aussi qui se jouaient, puisque plus tard il s'est avéré que je suis homosexuel et je pense que ces années-là aussi m'ont été difficiles pour cette raison. Donc j'avais un peu un package assez noir, c'est vrai.
Vous êtes resté amie avec ce garçon ?
Oui et non. Enfin, disons qu'on n'a pas perdu complètement le lien parce que nos mères sont devenues amies aussi. Oui. Et c'est vrai que ça a été difficile après de se voir avec le temps. On se voyait de moins en moins. On ne s'est pas vu en vrai depuis pas mal d'années maintenant. Mais de fait, on a des nouvelles l'un et l'autre par nos mères de temps en temps. Et c'est vrai que parfois, ça me revient de me dire que ça serait peut-être chouette de se retrouver un jour. Et peut-être ça arrivera d'ailleurs.
J'espère. Il est toujours dans le Gers, j'imagine.
Il est à Toulouse et lui, il a aussi largement réussi sa vie. Il est devenu prof à la fac. C'était un brillant élève. Hein.
Il est à Toulouse et vous voyez que rarement. C'est curieux parce que vous disiez justement que vous étiez extrêmement fusionnel enfant.
Oui, mais c'est vrai qu'après, on a chacun suivi notre parcours de vie et qui nous a de fait éloignés. Et après, au bout d'un moment, c'est difficile peut-être de recréer cet atome crochu, mais je pense qu'on garde l'un et l'autre ses bons souvenirs et qu'on ne s'oublie pas, c'est déjà bien, et peut-être qu'un jour on se retrouvera.
Vous dites que la musique était déjà très importante pour vous enfant, avez-vous appris un instrument ?
Oui, j'ai commencé à 6 ans, 2 ans de piano, et ensuite j'ai fait de la clarinette pendant plus de 10 ans.
Ah oui ?
Oui, j'ai fait du solfège, des cours de clarinette, je suis monté jusqu'au niveau brevet. Avant le conservatoire, je n'ai jamais été au conservatoire. Et ensuite, j'ai joué dans une harmonie à L'Île-Jourdain, justement, à la Société Philharmonique de L'Île-Jourdain. Pendant plusieurs années, j'ai arrêté à peu près à l'âge de 20 ans. Malheureusement.
Complètement ?
Et ouais, complètement, mais... Encore une fois,
c'est dommage.
Tout est lié. C'est dommage, mais je n'ai pas arrêté la musique. J'ai toujours fait de la musique. Donc, en fait, je suis passé au chant après.
Oui.
Je suis rentré dans une troupe de chant à côté de L'Île-Jourdain, dans un village, dans une troupe qui s'appelait Andolphivois. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Donc, je suis plutôt parti dans l'envie de chanter que j'avais depuis longtemps, puisque je disais que je passais des après-midi à écouter de la musique. Je passais aussi des après-midi à chanter dans ma chambre. à prendre un micro et me prendre pour un artiste. J'aimais beaucoup ça. Et du coup, j'ai aussi, grâce à cette période de troupe de chant et cours de chant, accompli un désir aussi que j'avais de chanter, mais que je ne faisais pas parce que quand on joue de la clarinette, ben, on ne peut pas en même temps chanter. Et c'est vrai que j'aurais eu peut-être l'envie, mais je ne l'ai pas fait, de renouer avec un instrument qui peut se lier justement au chant, donc peut-être le piano de nouveau, ou la guitare, mais je ne l'ai pas encore fait, mais peut-être ça viendra un jour.
Vous dites avoir fait 2 ans de piano simplement.
Oui, de 6 à 8 ans, ça a été mon premier instrument.
Et rien depuis sur le piano ?
Et non, parce que...
On oublie le piano.
Ah oui, c'est clair, je me sens... Enfin, j'ai quelques souvenirs, oui, en plus je sais lire, donc il y a des choses qui pourront revenir assez vite, mais la dextérité notamment des deux mains, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus, enfin, à part un petit morceau, il me reste un ou deux petits morceaux que des fois je m'amuse si je joue un piano à rejouer.
Que vous aviez appris à l'époque.
Que je me souviens. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai dans la tête quand même, qu'à un moment peut-être je reprendrai le piano. En tout cas, aujourd'hui, je continue le chant à travers, je suis membre du Chœur Gay de Toulouse depuis 2 ans, donc j'ai quand même toujours la musique dans ma vie, ça ne s'est jamais arrêté. C'est vrai que d'avoir arrêté la clarinette, bon... Je me dis que c'est dommage d'un certain côté. Après, c'est aussi autre chose qui m'attire aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je la reprendrai. Hein. Je connais des gens qui ont arrêté pendant longtemps la clarinette, qui l'ont repris. Donc peut-être que plus tard, l'envie me reviendra et que je reprendrai l'instrument ou que j'apprendrai le piano, à voir.
On revient à cette époque justement de petit garçon de l'île Jourdain. Quel genre de musique vous écoutiez ?
Alors, j'ai toujours eu des goûts très éclectiques. J'aimais beaucoup la musique classique quand même. En plus, avec la clarinette, j'en jouais en clarinette. Le jazz également. Et ensuite, je suis quand même très, très variété française. Là aussi, avec des goûts très éclectiques. J'adore la musique des années 80, bien kitsch, sur laquelle j'aime danser et chanter avec des amis. Et puis, j'aime la musique un peu plus élaborée, les nouveaux artistes aujourd'hui. J'ai vraiment, et puis la musique internationale aussi, j'ai vraiment des goûts très, très différents. Hein. Je suis ouvert à beaucoup de styles parce que la musique, par contre, est fondamentale dans ma vie et je l'écoute tous les jours.
Votre sœur Géraldine a 5 ans de plus que vous. Donc, c'est quand même, quand on est enfant, 5 ans, c'est énorme.
Oui.
Parce que sont deux vies différentes.
Oui.
J'imagine que vous avez moins de souvenirs avec votre sœur qu'avec ce jeune garçon avec qui vous étiez fusionnel.
C'est sûr. Je n'ai pas malheureusement partagé beaucoup de choses avec ma sœur parce qu'à cause de cet écart, comme vous dites, qui est quand même marquant parce que les ruptures se font, notamment les changements collège-lycée où
on a des
gros écarts.
Que
quand
10
on a
ans, 15 ans, par exemple, c'est un monde. À cet âge-là, c'est un monde.
Donc, de fait, j'ai peu partagé, c'est vrai, de choses avec ma sœur. On a plus été l'un à côté de l'autre. Après, je m'entends bien avec elle, hein. j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que de fait, on n'a pas pu créer une grande complicité, on va dire, dans l'enfance, comme j'ai pu la créer avec Buddy pendant les années donc, de l'école. Après, j'ai quand même réussi à me créer d'autres amis, heureusement, au collège et plus au lycée, parce que vraiment, les années collège ont été difficiles. Au lycée, j'ai réussi à grandir et du coup, à prendre de la maturité, me recréer des amis.
Vous étiez bon élève ?
Oui, j'étais vraiment l'élève qui passe de classe en classe, qui est plutôt dans le haut de la classe, pas forcément le meilleur, mais toujours
qui pose pas de problème au niveau de sa scolarité.
C'est ça, je suis le garçon sage et qui réussit sa scolarité. Et justement, parfois, le fond de ce que je suis détonne avec ce que j'ai été, je trouve, parce qu'il y a des fois, j'aimerais être beaucoup plus... pas faire n'importe quoi, mais quand même pouvoir être... plus différent, on va dire, et pas dans les clous. Mais ceci dit, je ne l'ai pas été pour bien des raisons, et notamment d'ailleurs dans les engagements politiques où je ne suis pas forcément dans les rangs des partis dominants ou des choses comme ça. Donc j'ai d'autres espoirs, on va dire, que la vie qu'on nous prévoit. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis fondu dans les cadres, qu'ils soient dans la famille, dans l'école, d'être le bon élève, sans doute pour passer un petit peu les mauvaises périodes et me trouver aussi moi-même. Et depuis que je me suis trouvé, c'est-à-dire dans les années plutôt 18-20 ans, je me suis quand même assumé assez tardivement. J'ai quand même réussi à créer ma propre vie, faire mon propre parcours et je suis assez fier de ça parce que c'est vrai que y compris mon engagement politique a pu faire peur, mes parents ont été assez ont résisté parfois à ça, mais j'ai
fait ma route. Donc c'était pas quelque chose de familial?
Pas du tout, moi personne dans ma famille n'est engagé dans un parti politique, C'est vraiment un chemin propre et personnel. Après, j'ai des parents ou des grands-parents qui peuvent être sensibilisés, qui ont des convictions, pas écologistes en l'occurrence, plutôt de gauche, quoi. Mon grand-père, pas du tout, par exemple, plutôt gaulliste, mais donc des gens qui peuvent avoir une culture politique ou des convictions, mais personne dans ma famille n'a été engagé avant moi, quoi.
Vos parents sont toujours en activité professionnelle aujourd'hui ?
Mon père est à la retraite et ma mère, oui, est toujours en activité professionnelle.
Et qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ?
Mon père était prof d'économie gestion et ma mère, elle est assistante d'ingénieur dans une boîte qui certifie des produits bio. Mais elle a fait d'autres boîtes avant. Elle a toujours été assistante de direction ou assistante, voilà, comme là, d'ingénieur.
Vous avez eu des parents donc ouverts ?
Oui. Ouvert, mais mes parents, après, des parents peu communicants. Donc, je suis élevée quand même beaucoup dans le silence, on va dire, dans on ne se dit pas les choses, on ne se dit pas qu'on s'aime. Donc, voilà, c'est quand même un climat où on ne se dit pas. Donc, je n'ai pas forcément ressenti qu'il soit ou non ouvert. Au fond, il l'était, même si ça a pu être compliqué, comme tout parent, quand même. Quand j'ai fait mon coming out, mais je ne peux pas dire qu'ils n'étaient pas ouverts, au contraire, mais ils ont toujours été là, enfin, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que je suis quand même d'une famille où on ne communique pas, et donc c'est quand même aussi une partie de moi encore aujourd'hui d'avoir la difficulté parfois à dire les choses, notamment positives.
Vous dites en fait que vous vous êtes trouvé, découvert, ouvert, quand vous êtes arrivé à Toulouse après le bac.
Ah oui, c'est sûr. Toulouse, c'est une ville qui m'a libérée, oui. Parce que quand on grandit dans un, c'est quand même un village. L'Isle-Jourdain, aujourd'hui, ça devient une ville de plus en plus grande. Mais
le giron familial.
Voilà, c'est la famille. C'est en plus petite ville. C'est pas quelque chose qui amène une ouverture d'esprit. Alors que quand je suis arrivé étudiant à Toulouse, forcément. Je me suis découvert mon propre monde, j'ai pu rencontrer des gens qui me ressemblaient. Et c'est important, parce que c'est vrai que c'est des débats après qu'on peut avoir plus largement sur le côté communautaire. Parfois, on dit que par exemple, les associations LGBT, c'est un peu une forme de communautarisme. Moi, je crois que c'est essentiel. C'est-à-dire que quand on est différent, on a besoin de se retrouver avec des gens comme soi et c'est précieux.
Et savoir qu'on n'est pas seul, tout simplement.
C'est ça, c'est tout simplement ça. Et c'est pour ça que c'est bien, je trouve, et même s'il y en a de moins en moins, qu'il y ait des bars plutôt gays, parce que moi, c'est aussi à travers ces lieux de sociabilisation que je me suis de plus en plus assumée, de plus en plus retrouvée aussi avec des gens avec qui je pouvais partager les mêmes problèmes, les mêmes envies. Et ça m'a vraiment aidée à être, tout simplement.
Oui. À quand remonte votre engagement politique ?
À petit. Je suis un peu. Je dis souvent, parce qu'on m'a posé la question, notamment quand j'ai été la tête de liste, où on parle un peu de soi, on m'a dit, mais d'où vous vient du coup cet engagement politique ? Et j'avais du mal à l'expliquer, puisque ce n'est pas lié à ma famille. J'avais du mal à expliquer. Je dis souvent, je ne sais pas comment j'ai attrapé le virus de la politique, mais j'ai forcément ça en moi, parce que je me suis intéressé à la politique depuis très jeune, moi, à 10 ans. Je regardais déjà les questions au gouvernement sur France 3 l'après-midi, le mercredi après-midi au lieu de regarder les dessins animés. Donc j'ai eu ce goût pour la politique que je ne m'explique pas honnêtement. Et du coup, très jeune aussi, genre à 14-15 ans, j'ai commencé à lire des livres politiques. Et par contre, j'ai eu le souci de vouloir me faire vraiment ma propre conviction en lisant des livres de gens de droite, de gauche. Je me souviens avoir lu un livre de Martine Aubry, qui était une réflexion sur la gauche, lu un livre de Patrick Devedjian qui s'appelait « Penser la droite ». Donc j'ai vraiment fait l'exercice jusqu'au bout de me nourrir de lectures politiques diverses pour forger ma propre conviction dans le souci justement de ne pas juste reproduire ce que j'avais pu m'inculquer de fait mes parents qui avaient une sensibilité de gauche. Et je me suis construit moi-même mon identité d'écologiste, puisqu'en plus j'ai fait le choix un peu différent de ne pas forcément me retrouver dans les schémas traditionnels des partis de gauche ou de droite, mais d'un nouveau paradigme d'écologie. Après, le choix de l'écologie s'explique par d'autres aussi éléments personnels qui ont pu contribuer à finir de me convaincre.
On peut les évoquer ?
On peut, parce qu'en plus, il y aura une chanson un peu qui l'évoquera. C'est notamment en fait, un décès qui m'a un peu traumatisé, le décès de ma tante, de la sœur de ma mère, d'un cancer du sein, que j'ai vraiment vécu que j'ai vraiment pas compris en fait, puisqu'elle était jeune, elle avait à peine une quarantaine d'années. Donc,
et vous, quel âge aviez-vous?
Et moi, j'avais 12 ans.
Oui.
Donc, bah, c'était en plus les années collège, les fameuses années difficiles. Et je n'y ai pas été forcément préparée, en fait, à ce décès. C'est ça qui a été douloureux. Ça a été vraiment un choc. Et ça, ça a forgé en moi de me dire, bon, ce n'est pas normal de mourir si jeune et de mourir d'une maladie. Et c'est vrai qu'il y a des lectures qui m'ont quand même interpellée, notamment ce livre d'un professeur cancérologue qui s'appelle le docteur Belpomme, qui n'est pas un écologiste au sens politique, parce que c'était même un proche de Chirac. Hein, donc j'aime bien le rappeler pour montrer que voilà, il y en a qui ont réfléchi au-delà des engagements politiques. Et ce professeur Belpomme, il a écrit un livre qui s'appelle « Ces maladies créées par l'homme », qui explique le lien fort entre le développement des cancers et nos modes de production et de consommation, et notamment la question des pesticides. Et ma tante était agricultrice. Et du coup, ça m'a forcément fait écho et ça a contribué aussi à un engagement de me dire c'est pas normal effectivement de mourir jeune et si ces maladies elles sont pas
vous l'avez vu comme quelque chose de révoltant.
Oui c'est une révolte, mais mon engagement c'est un peu une révolte contre plein d'injustices, et l'écologie c'est aussi une manière de faire de tout ce négatif d'un monde qui ne convient pas un nouvel espoir.
Justement, je vous propose une première pause musicale et votre premier choix s'est porté sur une chanson de France Gall, évidemment.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière. Et la colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue. Qui ne change rien, qui change tout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. On rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Pas comme avant.
Merci pour ce choix. Oui. Pourquoi ce choix, justement ?
Pas mal de raisons. D'abord, effectivement, c'est une chanson dont le texte me parle beaucoup par rapport à ma tante, justement. Donc, c'est un peu une chanson qui fait penser à elle. Et puis, plus largement, pour la musique de Michel Berger. Je suis un fan de la musique de Michel Berger. Tous ces textes, en fait, me parlent. J'ai l'impression que ça parle de ma vie, de moi, de ce que je pense. Et ce que j'aime dans sa musique, c'est le côté des mots simples. Donc, pouvoir transmettre des choses simples. Et parfois, sur des musiques rythmées, même quand c'est triste. Donc, j'aime bien ce mélange aussi de garder quand même une forme de joie, même pour parler de mélancolie ou de choses plus tristes. Et tout ça de manière simple. Et pour France Gall aussi, puisque du coup j'aime la musique de Michel Berger, j'aime France Gall. Et la personnalité de France Gall aussi m'a beaucoup, beaucoup accompagné un peu dans mon parcours. Quand je racontais les moments difficiles, c'est une musique que j'écoutais beaucoup, c'est une personne que j'écoutais beaucoup parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves et elle avait ce côté.
Digne,
ouais, elle est toujours assez digne, mais plus que ça, elle était douée. Elle disait elle-même, je suis douée pour le bonheur. Et elle savait transmettre ça. Et c'est quelque chose qui m'a aidé aussi à ne pas me renfermer dans une espèce de mélancolie que j'ai quand même au fond de moi, une mélancolie, une nostalgie, et justement avancer et essayer de construire du positif. Elle m'a aidé aussi à ça beaucoup.
J'aimerais qu'on parle de vos années à la fac de droit et que vous me fassiez le parallèle justement avec votre engagement politique à cette époque.
Alors, les années de droit, effectivement, ça a été parallèle à cet engagement politique puisque j'ai adhéré, moi, au Vert à l'âge de 18 ans. J'avais fait mon choix, on va dire, depuis déjà quelques années, puisque on va dire que c'est la campagne présidentielle de 1995. Donc là, je n'avais que 14 ans, qui a définitivement forgé ma conviction. Je me souviens que c'était Dominique Voynet, la candidate des Verts. Elle était jeune, elle détonnait et elle m'a convaincue. Je me suis dit que j'adhérerais aux Verts, mais que j'attendrais d'avoir 18 ans. Bon, voilà. Donc j'ai adhéré à 18 ans. Donc 18 ans, c'est le moment aussi où j'ai eu mon bac et que je suis venu à Toulouse. Donc les années fac de droit, ce sont les années aussi de mon début d'engagement politique chez les Verts, d'une part. Et là, j'ai fait le choix au début plutôt d'aller aux Verts du Gers parce que j'avais encore un ancrage à l'île Jourdain à ce moment-là, au moment où je suis parti à la fac. Puis progressivement, je me suis quand même beaucoup plus engagé sur Toulouse. Et en même temps, j'ai été un des cofondateurs d'une antenne des jeunes verts à l'époque, avec un camarade de fac, parce qu'il s'est trouvé assez extraordinairement que dans mon amphi de fac de droit, c'était je crois en deuxième année, je vois quelqu'un de rang en dessous qui avait un autocollant des Verts. Alors je trouvais ça extraordinaire parce que la fac de droit n'est pas réputée pour être forcément déjà plutôt de gauche et alors encore moins peut-être écologiste. Et je suis tombé dans, là aussi il n'y a pas de hasard je crois, j'aime bien la phrase il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et j'ai rencontré Julien qui était un étudiant comme moi en fac de droit et ensemble on a cheminé aussi sur le plan politique. Et Julien était plus âgé que moi, il a aussi beaucoup contribué à forger une formation politique que je n'avais pas forcément moi. J'ai rencontré après plein d'autres gens à travers les Jeunes Verts, je pense notamment à Stéphane Sidbon, qui a eu des responsabilités importantes dans le parti. Il a été un très proche de Cécile Duflot et à son cabinet aussi en tant que ministre. Donc c'est pour dire que voilà, j'ai eu la chance après de rencontrer des gens qui m'ont beaucoup appris et avec qui j'ai cheminé politiquement aussi, mêlant politique et amitié.
C'est assez curieux de se dire que, vous l'avez dit vous-même, vous étiez un petit garçon extrêmement timide, coupé un petit peu du reste de vos camarades et dès votre plus jeune âge à avoir envie de cet engagement politique parce qu'il y a bien deux mots qui ne font pas bon ménage, c'est timidité et politique.
Oui, mais justement, peut-être que la politique m'a permis justement de dépasser cette timidité et de aussi sortir de cet enfermement pour me révéler, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la politique m'a permis aussi d'assumer qui je suis, de pouvoir porter ce que j'avais au fond de moi, toutes les injustices, etc., les transformer en un projet qu'on veut défendre. Et c'est vrai qu'après, mon cheminement politique, il a vraiment contribué à me donner confiance en moi. Hein. Clairement, moi,
ça a pratiquement été une thérapie.
On peut le dire. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs une fois, que c'était presque une thérapie. Et par exemple, quand j'ai été élu en 2008, j'étais encore jeune, hein, j'avais 27 ans. Et du coup, je me suis retrouvé au milieu d'une jungle, on va dire, de vieux renards de la politique, et essentiellement des hommes, bien sûr. auprès desquels je me sentais vraiment pas au début à ma place et en difficulté aussi à, par exemple, défendre des idées face à eux. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais progressivement, j'ai réussi en fait à prendre ma place, quoi, et à me dire et à me rendre compte que oui, j'avais le droit aussi de m'exprimer, que j'avais autant de légitimité qu'eux. Il faut dire que le temps m'a aussi appris que qu'effectivement, j'avais pas à rougir par rapport à mes, non seulement mes idées, mais aussi au travail mené, parce qu'il y a aussi des élus, il faut le dire, qui font pas, qui se laissent porter par leur habitude, mais qui finalement ne produisent plus d'idées, de projets, et sont dans un côté gestionnaire. Donc, du coup, ça m'a aussi donné confiance.
Donc, en 2008, comme vous venez de le dire, vous êtes élu avec la nouvelle majorité toulousaine. Vous oui. exercez votre mandat pendant 6 ans. Mm-hmm. Comment se passe cette période ?
C'est une grande surprise d'abord parce que moi, j'ai fait la campagne, on était dans une liste rassemblée de toute la gauche et des écologistes. J'ai fait la campagne pleinement, mais je dois reconnaître que j'avais un peu la conviction qu'on allait encore perdre, puisque la gauche perdait depuis très longtemps. Il y avait eu 37 ans de droite et on est passé de très peu, ceci dit, de 1200 voix. Hein, donc on a gagné de peu. Et ça a été la grosse surprise, puisque du coup, je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure d'être élu dans la 4e ville de France. Je ne mesurais absolument pas ce que ça voulait dire, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, puisqu'on était quand même plus des 3/4 nouveaux élus. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, au début, j'avoue, je n'avais pas envie d'être élu à temps plein. Mais depuis 3 mois, j'étais demandeur d'emploi, puisque je venais de terminer mon contrat dans les mutuelles où je travaillais. Donc, j'ai quand même cherché des temps partiels en me disant c'est bien d'avoir un pied dans le travail et d'avoir le mandat. Mais d'abord, j'avais du mal à trouver, surtout une fois élu. Et puis, je me suis très vite rendu compte que ce mandat dans une majorité, c'était quand même, si on voulait bien le faire, c'était prenant et qu'il valait peut-être le coup de le mener pleinement. Donc, j'ai fait ce choix de le mener pleinement, mais avec des difficultés un peu personnelles et on va dire de protection sociale, puisque aujourd'hui, le statut d'élu local ne prévoit la possibilité d'arrêter son activité et de pouvoir cotiser sur ses indemnités que pour les maires ou ensuite les adjoints et les vice-présidents dans les villes de plus de 100 000 habitants. Or, moi, à ce moment-là, je n'étais que conseiller délégué et membre du bureau de la communauté urbaine. Je n'avais pas le titre d'adjoint ou de vice-président, donc je ne pouvais pas cotiser. Donc, j'ai failli me retrouver. Pendant un petit moment, j'étais toujours inscrit à Pôle emploi. Et il est arrivé un moment où j'ai failli basculer à être obligé d'être au RSA. C'était quand même assez cocasse. Pour avoir la protection sociale, ou alors il fallait que je fasse le choix de la cotisation volontaire. Mais
ça, on n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais de ça.
Non, on ne parle pas assez du statut d'élu local, parce que c'est ce qui explique aussi qu'on a des élus qui sont beaucoup soit à la retraite, soit dans la fonction publique, soit profession libérale, où c'est un peu plus facile de jongler. Mais regardez le nombre d'élus salariés dans le privé, et vous verrez qu'on est très, très peu nombreux. Mais ça s'explique à cause de ces problèmes, parce qu'après, ce n'est pas facile d'être salarié et d'exercer son mandat. C'est d'ailleurs la situation que je vis aujourd'hui dans l'opposition. En tout cas, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai fait ce choix-là. Je ne le regrette pas parce que ça a été une expérience extraordinaire et très formatrice. Je dis souvent que j'ai plus appris en 6 ans de mandat que pendant toutes mes études, à la fois en termes de connaissances, d'acquisition de compétences.
De rapports humains.
Et de rapports humains encore plus, puisque ça nous fait vivre le meilleur et le pire, la politique. Et de ce point de vue-là, ça forge effectivement un caractère qu'on n'a pas forcément. En tout cas, une capacité à affronter les moments difficiles. Et puis en même temps, c'est aussi des rencontres humaines riches.
Oui, bien sûr. Quelles sont ces années-là, vos lectures ?
Pendant les années du mandat ?
Oui.
J'avoue que pendant les années du mandat, à part pendant les moments de vacances où j'arrivais à me déconnecter, à pouvoir lire un peu des livres, des romans ou autres, j'ai beaucoup lu, surtout des choses liées à mon mandat, des livres politiques, des livres liés à ce que je faisais, ce que j'avais comme délégation. Par exemple, j'ai eu l'économie sociale et solidaire. C'était un champ dont j'avais une connaissance que théorique. Donc, je me suis nourri des lectures de Patrick Vivray, par exemple, qui a écrit pas mal là-dessus. Ou d'autres économistes qui ont un peu développé de la pensée sur l'économie sociale et solidaire pour aussi alimenter la délégation que j'avais. Après, de manière générale, je reconnais que je lis peu parce que justement, j'ai cette difficulté à me concentrer à la lecture dans mon quotidien, en fait. Donc, c'est vrai que je lis essentiellement quand j'arrive à me déconnecter, donc des week-ends prolongés, des vacances. Mais j'ai essayé quand même de me nourrir aussi d'autres choses que de politique, je vous rassure. Par exemple, j'aime beaucoup lire Christian Bobin, qui écrit des textes extraordinaires. Moi, j'aime bien quand même des choses qui m'embarquent un peu, m'amènent ailleurs. Donc, je cherche des écrivains ou des poètes qui m'amènent ailleurs.
Vous écrivez vous-même ?
Ben, pas assez. Et parfois, je me dis que je devrais... Il y en a plusieurs qui m'ont dit que je devrais essayer parce que si j'écris un mot à des gens, il y en a qui me disent quand même que tu as une certaine écriture ou une facilité. Et j'aime ça quelque part, mais je n'ai jamais eu cette confiance pour le coup ou de prendre le temps aussi d'écrire. Mais c'est quelque chose qui me travaille. Je me dis il faudrait que je le fasse.
En tant que musicien, vous n'avez jamais eu envie d'écrire une chanson, par exemple ?
Et justement, ben, ça fait partie des choses aussi que j'ai... Mais je n'ai jamais osé, en fait. J'ose pas.
Pourquoi ? Le pourquoi, c'est pourquoi vous n'osez pas cela ? Parce
oui.
que comme on vient de le voir depuis le début de l'émission, vous avez tellement osé. Avez tellement osé, puisque vous avez tellement eu un parcours de vie différent de ce qui était annoncé au départ, de par votre personnalité.
Oui, oui, mais tout ce que j'ai osé, je me rends compte avec le recul, les moments où j'ose, il y a quand même des personnes autour. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'aident à oser en m'encourageant.
En me donnant confiance en moi.
Et du coup, dans l'écriture, c'est quelque chose de tellement personnel que là, il faudrait que j'arrive
à le faire
seul.
Tout seul.
Et j'en suis pas là, vous voyez. Donc, j'ai encore quand même du chemin pour oser vraiment. Mais je pense que je le ferai parce que j'ai quand même, c'est quelque chose, ça fait un moment que ça me travaille. Je pense qu'à un moment, je prendrai le temps d'écrire. Il y a quelque chose que j'ai envie d'écrire. C'est justement ce parcours et cette expérience politique. Parce qu'il y a des choses quand même que j'aimerais dire de ce qu'on ne voit pas justement dans la politique, sans forcément nommer les gens. C'est pas la question d'attaquer les personnes, mais y compris d'avoir conscience que l'envers du décor, c'est compliqué la politique, c'est douloureux aussi parfois, mais raconter un peu cet envers du décor, mais en essayant d'en faire quelque chose de constructif, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment, et je pense que quand je ne serai plus élu, si je ne suis plus élu, par exemple, en 2020 ou peut-être après notre mandat, j'en sais rien, je prendrai ce temps, je crois, de raconter cette expérience. Ouais,
je ne vous ai pas demandé, dans la première partie de votre enfance, si vous aviez, avec vos parents, voyagé.
Oui, j'ai fait quelques voyages avec mes parents. Notamment, ma mère, elle est née en Tunisie et elle est rentrée à l'âge de 6 ans. On avait fait un voyage en Tunisie en famille. On est retourné sur les terres de son enfance. Ça a été assez émouvant et douloureux un peu pour ma mère aussi. Enfin, ça lui a... Parce qu'elle avait une image idyllique d'un endroit qui n'était pas du tout idyllique. Donc, c'était assez intéressant et émouvant. Après, j'ai été avec eux... en Martinique, pas trop quand même beaucoup de pays, c'était resté très, on va dire, Maghreb, France, j'ai été dans des régions de France, en Bretagne, etc. Donc j'ai quand même eu la chance d'aller dans différents endroits avec mes parents. Et par contre, les voyages, c'est quelque chose que j'ai fait moi ensuite, en couple, beaucoup. J'ai fait pas mal de pays, notamment réaliser un rêve que j'avais d'aller au Sénégal. C'était un pays qui m'avait beaucoup attiré. Donc là, on retrouve France Gall, puisqu'il y avait tout son album Babacar qui parle de l'Afrique et elle qui a eu l'occasion d'en parler. Ça m'avait vraiment donné envie d'y aller. Et je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé ce que j'attendais. J'ai eu la chance de vivre avec les gens là-bas, d'être vraiment imprégné de la vie locale. Je n'étais pas dans des hôtels. Voilà. Donc c'était un voyage très initiatique, on va dire, le Sénégal. Et puis j'ai eu la chance d'aller dans d'autres pays d'Europe, essentiellement. Voilà. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Oui, les voyages sont formateurs.
Tout à fait. Les voyages, c'est là aussi le côté... l'ailleurs, quoi, qui nous nourrit, qui nous ramène aussi à une certaine humilité par rapport à la vie ici. Et par exemple, moi, en Afrique, c'est vraiment ce qui m'a plu, c'est cette capacité quand même à vivre dans la joie, ce qu'on a quand même du mal à faire, je trouve, ici, en France. Alors qu'ils n'ont rien, mais ils ont tout en eux, quoi. C'est assez extraordinaire ce qu'ils savent transmettre d'humanité. Ouais.
Vous n'avez jamais eu envie de vivre ailleurs qu'à Toulouse ?
Ben ça fait partie de mes regrets. Justement, j'ai eu cette retenue pendant longtemps, donc pas forcément bien. Donc jusqu'à 18 ans, j'ai fait aucun voyage à l'étranger. Enfin, si, à part un voyage en Italie scolaire quand même. Mais j'ai peu voyagé. Et j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait une année de césure ou bien un Erasmus, par exemple, pendant mes années de fac. Parce que je pense que ça m'aurait aujourd'hui... Je sais que ça m'aurait plu finalement, mais je crois que jusqu'à l'âge de 21-22 ans, j'en étais incapable. Et du coup, après, c'était un peu trop tard. J'ai fini très vite mes études et bon, voilà, ça s'est pas fait, quoi. Mais ça, c'est un peu un regret de ne pas être parti sur une durée assez longue, quoi. Par exemple, 6 mois et voir vraiment une vie ailleurs.
Alors, vous avez donc été élu sur ce mandat de 2008 à 2014. Oui. En 2014, vous êtes de nouveau élu, mais...
à une autre place.
voilà, pour l'opposition. Et alors, est-ce que c'est très différent ? Est-ce que vos deux mandats, vous le vivez comment, justement, cette différence de mandat ?
C'est très différent. Alors, bien sûr, si vous me demandez comment je le vis comme une frustration d'être dans l'opposition, parce qu'être dans l'opposition, on se sent quand même parfois inutile, hein, c'est un peu ingrat. En même temps, on sait que c'est important. D'abord, c'est important de faire entendre une autre voix. Hein. On n'a pas la pensée unique encore dans notre pays. Heureusement, c'est la démocratie. Donc, je crois que c'est important.
Pour l'instant, oui.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de pouvoir faire entendre aussi d'autres voix, d'autres idées à des moments, pouvoir être à la fois aussi critique, mais au sens y compris alerté. La majorité, je crois que quand on est élu dans la majorité, c'est important aussi d'entendre ça, même si on ne nous écoute pas forcément, ou même très très peu, malheureusement.
Vous avez l'impression de ne pas être entendu, à défaut d'écouter.
Ah non, on est souvent caricaturé, même par Jean-Luc Moudin, que dans les débats, il nous accuse de n'être que critique, alors qu'on fait, nous, en tout cas, les écologistes, beaucoup de propositions dont ils ne font aucune suite. On contribue à toutes les enquêtes qui sont menées. On a contribué même au moment de la COP21. On avait fait plein de propositions à la majorité. On a contribué, on a proposé un plan alternatif au plan mobilité qui ne soit pas complètement différent, qui tienne compte de leur projet. Par exemple, on n'a pas exclu la troisième ligne de métro qui n'était pas un projet à nous. On l'a inclus, mais qu'en partie. Voilà, on essaie d'être constructif, mais malgré ça... Jean-Luc Moudin, qui a la facilité de nous renvoyer simplement dans un rôle soi-disant de simple opposant caricatural, alors qu'il est lui-même. Mais bon, j'allais dire c'est le jeu, mais justement, moi, ce jeu, il me fatigue souvent. Et d'ailleurs, vous disiez, vous n'êtes pas un peu, vous êtes un extraterrestre ou dans ce monde politique, mais moi, justement, si je suis toujours là, c'est que je me dis que je ne veux pas justement que le monde politique reste tel qu'il est. Aujourd'hui,
vous
c'est vrai que...
Vous apportez votre pierre à l'édifice.
C'est ça, à l'édifice d'un changement aussi de la manière de faire de la politique. Et ça, c'est un élément, je trouve, intéressant du mandat d'opposition, pour trouver du positif. C'est qu'on essaye d'apporter le groupe Toulouse Vert Demain aussi sur la méthode, sur la manière de faire, une autre façon de faire de la politique et faire entendre... une autre manière que nous permet aussi d'avoir ce recul, d'avoir vécu l'exercice de la majorité, où quand même il y a une tentation de la majorité hein, d'imposer sa volonté, de ne faire que peu de cas de ce que peut penser l'opposition, que ce que peut avoir aussi comme moyen pour exercer son mandat à l'opposition. L'intérêt d'être dans l'opposition aujourd'hui, c'est aussi de vivre l'autre côté, d'avoir conscience aussi de cette difficulté de l'élu d'opposition. Et en même temps...
Donc c'est très formateur aussi d'être dans l'opposition.
Les deux sont formateurs. Je pense que c'est essentiel. En fait, dans l'absolu, je pense que c'est important de vivre les deux, et y compris pour être élu dans une majorité ou peut-être de nouveau dans une majorité, d'avoir vécu l'opposition, ça me paraît essentiel. Pour avoir effectivement vraiment la conscience de tous les enjeux qu'impose une démocratie locale. Parce qu'on est loin d'être au bout d'avoir, à mon avis, une démocratie locale qui marche.
Tout de suite, Antoine, je vous propose une deuxième pause musicale. Et le deuxième choix s'est porté sur les Rita Mitsouko, oui. Marcia Baila.
Elle danse, c'était sa
D'un coup, alors je suis ravie. C'est bien, ça fait plaisir. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de votre quotidien professionnel. Vous êtes directeur d'une association, Humus et Associés.
Oui.
Et je ne connais pas du tout cette association, donc j'aimerais que vous m'en parliez.
Alors, Humus et Associés, c'est une association qui promeut et développe le compostage de proximité et plus largement toute forme de valorisation de la matière organique. Donc en fait, notre sujet, c'est d'accompagner tout public dans l'installation de composteurs, l'accompagnement pour gérer le compostage, la formation au compostage. Donc en tout, en gros, l'objectif, c'est de développer une alternative, de ne pas jeter ces épluchures et tous ces déchets organiques à la poubelle, mais plutôt avoir conscience que ce n'est pas un déchet, mais une ressource, et du coup, la valoriser pour en faire du compost. Qu'on peut après utiliser au jardin.
Donc c'est plus de la communication en fait.
Alors notre association, elle ne fait pas que de la communication, elle fait de la sensibilisation d'un côté à travers des animations, à travers un centre de ressources et puis une permanence téléphonique. Elle fait aussi de l'accompagnement de projets, donc on travaille beaucoup avec des collectivités ou des structures qui ont par exemple de la restauration collective pour installer des composteurs collectifs et du coup créer des dynamiques collectives de pieds d'immeubles dans les jardins publics, dans des entreprises ou des établissements pour après mettre en place des sites de compostage et du coup gérer le site, être capable de le gérer en autonomie jusqu'à la récolte du compost. Et après un volet formation puisqu'on forme aussi des personnes, soit bénévoles, soit professionnelles, puisque dans les collectivités notamment, on a besoin de compétences. Et on a un référentiel national de l'ADEME qui nous agrée des organismes de formation. Et nous, on est aussi organisme de formation pour former des personnes, guides composteurs et maîtres composteurs, puisqu'il y a des niveaux de formation.
Vous avez un quotidien professionnel aujourd'hui qui rejoint complètement votre engagement politique.
Complètement, et j'en suis très très heureux parce que pour le coup, je fais de l'écologie concrète et je vois à travers mon travail quotidien des choses se faire sur le territoire et c'est très valorisant et ça compense la frustration de ne pas pouvoir le changer, on va dire, sur un plan plus politique. On peut aussi, et puis ça me rappelle une conviction que j'ai d'ailleurs en tant qu'écologiste, c'est qu'on a besoin toujours des deux pieds, hein, de l'engagement politique et dans les institutions, et d'un engagement aussi citoyen, puisque nous, c'est une association qui promeut le compostage citoyen de proximité, qui fait aussi changer les choses par l'engagement personnel et collectif en tant que citoyen, quoi.
En dehors de l'écologie, quel sujet vous révolte aujourd'hui ?
Alors déjà, l'écologie, pour moi, ce n'est pas que l'environnement. Et du coup, dans l'écologie politique, on a aussi justement toute la lutte contre les discriminations. Ce qui me révolte aujourd'hui, par exemple, c'est le sort qu'on fait aux migrants en France. J'ai un peu honte de la patrie dite des droits de l'homme et de sa politique de non-accueil, on va dire, des migrants. Alors même qu'on sait que le monde tel qu'il est fait, que les migrations vont se poursuivre et qu'on aura même dans les prochaines années des migrants climatiques, par exemple. Et du coup, tout ça, pour moi, c'est de l'écologie. Parce que l'écologie, justement, c'est une réflexion d'ensemble qui propose un autre modèle de société qui lie les questions sociales, environnementales, économiques et démocratiques. Donc moi, ce qui me révolte, c'est le fait que, justement, aujourd'hui, ce que je ressens profondément dans la politique telle qu'elle est menée en France et dans les collectivités en général, il y a des cas, heureusement, d'espoir. Hein, je pense à Grenoble, à Paris aussi. Je trouve qu'on ne prend pas en compte. Moi, ce qui me révolte, c'est qu'on est, on continue la fuite en avant. On fonce dans un mur. Et moi, ça m'inquiète par rapport d'autant plus aux générations, aux jeunes générations qui seront donc les générations de demain. Quel monde on laisse et voilà, et on n'agit pas en fait aujourd'hui pour moi ou trop peu. C'est un niveau tellement ridicule. Moi, ça me révolte toujours autant, mais c'est mon moteur aussi qui fait que je suis toujours aussi convaincu quand même qu'on a besoin de ces deux pieds, parce que l'action que je peux mener en tant que citoyen, dans des assos ou dans mon travail aujourd'hui, suffit pas non plus à changer de braquet. Et donc, on a besoin, à un moment donné, de cette action politique. Donc, c'est ce qui, en tout cas, fait que je suis toujours et plus que jamais convaincu que notre monde est possible.
Vous pouvez me dire deux mots sur la politique actuelle de Moudenc sur la ville de Toulouse ?
C'est une politique sans vision, c'est une politique qui demande aux Toulousains beaucoup d'efforts pour rien, puisque depuis le début du mandat, tout a augmenté, les impôts, tous les tarifs des services municipaux. Et pourquoi ? Pour moins de services publics, puisque par ailleurs, on ferme certaines piscines, on diminue le personnel, on ferme des crèches familiales, on diminue le personnel dans certains services publics. Et on dit aussi aux associations qui jouent un rôle majeur aussi de tissu démocratique social de faire des efforts et on leur baisse massivement les subventions. Donc on est en train d'asphyxier les services publics, les associations, mais aussi asphyxier tout court la ville en ne prenant pas justement en compte les enjeux écologiques. Je pense notamment à la pollution. La politique qui est menée aujourd'hui ne prépare pas du tout Toulouse à l'impact du dérèglement climatique, à l'impact de la dégradation de la qualité de l'air, notamment par la démographie qui augmente. Et du coup, moi, je suis très inquiet pour l'avenir de Toulouse. Et c'est pour ça que plus que jamais, je pense qu'il faut proposer un autre chemin qui nous prépare justement et qui fasse que demain, on vive mieux à Toulouse.
Toulouse, justement, une ville que vous aimez, où vous vivez donc depuis l'âge de 18 ans. Où aimez-vous sortir à Toulouse ?
Alors, dans Toulouse, moi, j'aime me balader au gré des... me laisser flâner au gré des rues. J'aime beaucoup, j'avoue, aller en bord de Garonne, notamment quand le soleil se couche, parce qu'il y a des couleurs magiques. Mais ensuite, j'aime me balader vraiment, découvrir. Je découvre tout le temps des nouvelles rues ou des nouveaux quartiers. Je prétends pas, justement, encore connaître tout de Toulouse. Et j'avoue que j'aime toujours l'esprit quoi, qui règne au-delà de la ville elle-même. En fait, c'est plutôt les gens. Moi, c'est ça qui me porte à Toulouse. Et c'est ce qui me fait dire que, par contre, il y a plein d'aspects sur lesquels j'aimerais que Toulouse change. Parce que Toulouse est un peu, s'endort un peu sur son passé, etc. Moi, je suis attaché aux racines, et notamment à la culture, notamment la culture occitane et toute l'histoire. Mais il faut aussi se projeter dans l'avenir. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se projeter uniquement en se reposant sur le développement de l'aéronautique quand on sait justement que cette industrie se développe sur la base des ressources naturelles qui sont en train de diminuer. Donc c'est un leurre de croire que ça va toujours être croissant. Il faut bien diversifier l'économie, préparer Toulouse aussi à ce changement climatique qui est déjà à l'œuvre en créant par exemple des îlots de fraîcheur, des espaces où on puisse respirer. On manque d'espaces verts à Toulouse. Donc il y a tellement de choses à faire encore que je me dis il faut vraiment changer d'orientation. Donc j'espère que dans les années à venir, on arrivera à proposer un autre avenir à Toulouse.
Vous allez au cinéma, au théâtre ?
Oui, j'essaye. J'y vais pas assez autant que j'aimerais au cinéma, j'avoue. Mais j'aime beaucoup aller au cinéma ou au théâtre.
Quel genre de film vous aimez aller voir au cinéma ?
Alors, j'avoue que j'aime bien des fois voir des comédies assez simples et voilà, pour bien me détendre. Mais après, j'aime bien voir des films engagés. Justement, par exemple, Call Me By Your Name, que j'ai vu à l'American Cosmograph. C'est clair que le cinéma, c'est aussi pour moi, enfin, la musique reste quand même, je crois, le plus important, mais le cinéma, c'est aussi un moment d'évasion qui est important pour moi.
Et donc le théâtre, l'opéra, j'imagine.
Oui, mais j'avoue que l'opéra, j'en ai vu beaucoup en fait pendant des années, et qu'aujourd'hui j'ai plus envie d'aller voir non du théâtre. Oui, par exemple, je vais régulièrement voir des spectacles à Audi Sud. J'ai pris un abonnement de différents types de spectacles. Ce soir, je vais voir François Morel, par exemple. Voilà. Donc, je vais voir différentes choses de danse, de théâtre, d'humoriste pour aussi me détendre. Et c'est vrai que ça me fait du bien. Ouais.
Vous me donnez un restaurant?
Un restaurant, honnêtement, je vais avoir du mal parce que je vais pas toujours au même endroit. Quel restaurant m'a marqué? Je vais avoir du mal. Je réfléchis. Il n'y a pas un qui me vient, vous voyez, parce que j'aime bien changer, moi, en fait. Mais je dirais l'Impérial à Victor Hugo. C'est vrai que c'est un endroit où je vais souvent. Donc tenu par trois femmes, trois générations de femmes. Donc c'est un des restaurants au-dessus du
Oui.
marché et j'aime bien y aller le week-end, le midi. On y mange très bien des bons produits du marché.
Vous faites votre marché à Victor Hugo?
Non, je fais peu mon marché puisque j'ai un panier en fait de légumes
Oui.
à main. Mais quand je fais mon marché, ça dépend, mais je vais plus à Saint-Aubin en fait.
D'accord.
Voilà.
Oui, Saint-Aubin, c'est marrant.
Parce
C'est
que je
un
sais
marché
plus.
qui est moins connu, je trouve, des Toulousains que les Carmes ou Victor Hugo, par
Oui,
exemple.
disons que c'est des marchés plus historiques et parce qu'il y a vraiment la halle quoi, au Carmes et à Victor Hugo, mais à Saint-Aubin quand même, c'est un marché, je pense, qui draine beaucoup de monde le dimanche. Donc c'est celui-là que je privilégie quand je vais au marché.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2020?
Je souhaite un autre avenir pour Toulouse et un Toulouse où on puisse construire un Toulouse où on puisse respirer, où on puisse se promener avec un air de meilleure qualité, où on puisse se déplacer plus facilement autrement qu'avec sa voiture individuelle. Un Toulouse
Vous
qui
pensez qu'il n'y a pas
retrouve.
assez de place pour les vélos, par exemple, à
Ah,
Toulouse?
clairement, alors là, les vélos, c'est les plus mal
C'est un
lotis.
vrai sujet.
Pour moi, c'est un vrai sujet, d'autant plus que plus de la moitié de nos déplacements font moins de 4 km. Donc, on a un potentiel énorme de développement de ce mode de transport qui est le moins polluant et qui peut être assez rapide, notamment pour les plus longs trajets avec des vélos électriques aussi. Mais pour ça, il faut avoir des pistes cyclables bien sécurisées, des cadres qui rassurent, parce que moi, je comprends qu'aujourd'hui, beaucoup auraient envie, mais ne le prennent pas le vélo parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables sécurisées et toute une politique aussi autour qui accompagne avec des lieux comme la maison du vélo, où on puisse facilement réparer son vélo, on puisse avoir des aides aussi autour de cette dimension-là. Et puis de l'éducation aussi, parce que c'est une autre façon de se conduire. Moi, je sais que j'étais plutôt un piéton et que je prends un vélo depuis un an. Et moi aussi, je découvre, c'est vraiment une autre façon aussi de se mouvoir qui demande d'autres règles. Et donc,
C'est dangereux de se balader en vélo à Toulouse.
pour moi, oui, ça, aujourd'hui, ça l'est encore beaucoup trop. Il y a très peu d'endroits où c'est sécurisé. Oui. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, ouais,
Et les
notamment.
Vélib, vous en pensez quoi?
Les Vélib en soi, c'est une bonne idée. Après, ça reste un mode qui ne peut pas être généralisable parce qu'il coûte très cher aujourd'hui à la collectivité. Donc, on sait qu'on ne pourra pas le développer sur le reste du territoire. Donc, il faudra bien imaginer aussi d'autres solutions. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut s'appuyer sur des structures associatives qui peuvent aussi développer un service complémentaire au vélo Toulouse pour l'ensemble des autres communes et pour le reste du territoire de Toulouse qui en a un manque pour faciliter la location de vélos courte durée, moyenne durée, longue durée et justement donner l'envie aussi les moyens de prendre ce mode de transport au quotidien.
Antoine Maurice, nous voilà déjà à la fin de l'émission, mais j'aimerais, avant de la terminer, je vous laisse du temps pour adresser un message aux Toulousains, votre message.
Moi, je dis aux Toulousains, ne désespérez pas de la politique actuelle, ayez confiance en vous. Il y a beaucoup de talents à Toulouse, il y a beaucoup d'associations, de collectifs mobilisés pour des causes justes et nobles, mais qui sont effectivement éparpillés. J'ai envie de leur dire, rassemblez-vous, rencontrez-vous et ensemble, nous serons tous plus forts pour proposer un autre avenir à Toulouse qui soit plus juste, plus solidaire et plus durable pour nos enfants et nos petits-enfants.
Également, on a vu que vous avez déjà eu, j'ai presque envie de dire, deux vies en une, votre vie jusqu'à 18 ans, votre vie depuis 18 ans. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de part de petit garçon en vous ?
Justement, je me dis souvent que j'ai du mal à garder une part d'enfant en moi, parce que justement, dès l'âge d'enfant, j'ai l'impression d'avoir été adulte au sens de suite, embarqué sur des préoccupations qui sont plutôt d'adulte, hein, de politique, de vie de la cité, puisque je m'intéressais à la politique à l'âge de 9-10 ans déjà. Et c'est vrai que je manque parfois justement de fantaisie. Par exemple, les dessins animés, ça ne me parle pas. Donc je ne sais pas ce qui reste de ma part d'enfant. J'ai plutôt envie de dire quelle part d'enfant il me reste dans les années à venir à vivre, parce que peut-être que je vais devenir plus vieux, un peu plus enfant et au sens pas, au sens peut-être plus lâcher prise, plus me laisser porter par la vie, sans toujours avoir une réflexion, etc. Moi, c'est un peu, j'aspire finalement à devenir peut-être un peu enfant dans les années à venir.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
L'hiver. Ainsi vont les si et les mais pourtant, ainsi va la vie comme un invité mystère.